Moi-même, d'ailleurs, en visio, sur le site de l'établissement du lycée Jean Lursin, ainsi que sur le compte Twitter de la DRAN, avec beaucoup d'abonnés. Donc, on va être suivis en distanciel, c'est une bonne chose. Donc, rapidement, je me présente, je m'appelle Marie-Laure Grand, je suis professeure documentaliste. Et il y a 10 ans, donc le 27 mai 2011 précisément, j'étais présente au concert humanitaire du lycée Jean Lursa, organisé à l'époque par mes collègues d'Espagnol que je salue au passage, Madame Pinchenet et Madame Munoz. Et c'est à cette occasion, grâce à l'association Les Web Reporters de Martigues, que nous avons réalisé la première émission de la web radio du lycée. Voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, le 27 mai 2021. Je suis accompagnée des élèves, bien sûr, de l'équipe actuelle, mais aussi d'anciens élèves de la radio qui ont tenu à être là aujourd'hui. Et je les en remercie vivement, parce que ça me touche beaucoup de vous voir tous réunis aujourd'hui. Alors, l'émission va être très longue. On va faire 3 émissions d'1 heure. Je ne vais pas vous dévoiler tout le programme. Vous allez avoir quelques invités, bien sûr, et des chroniques, des interviews, des coupures musicales. Et voilà, je tenais à dire une dernière chose pour les gens qui nous suivent sur le site du Clémy National et qui ne connaissent pas le lycée Jean Lursa à Martigues. Je fais partie d'un lycée très dynamique et je voulais rendre hommage à mes collègues enseignants du lycée général et du lycée professionnel pour leur investissement. Voilà, depuis que je suis là, je crois que j'ai vu plein de beaux projets se réaliser pour les élèves et on remercie jamais assez les équipes enseignantes. Donc je vous remercie tous. Voilà, on attaque l'émission, Antoine. Allez, c'est parti. Merci à vous.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour l'événement le plus spécial de cette année 2020-2021, pourtant si particulière. Madame Grand l'a rappelé, Utopia fête sa première décennie. Et oui, il y a de ça 10 ans, le 27 mai 2011, débutait cette grande histoire de notre très chère radio du lycée Jean Lursa de Martigues. Une histoire que nous faisons perdurer malgré les embûches que nous pose cette pandémie. Car oui, vous l'aurez compris, nous avons la chance de pouvoir enregistrer tous ensemble dans le hall du lycée Jean Lursa. Au programme de cette journée, vous aurez la chance d'entendre vos chroniqueurs préférés, mais aussi d'anciennes voix. D'anciens chroniqueurs, animateurs, toutes générations confondues, sont venus aujourd'hui, certains de très loin, afin d'agrandir au maximum la grande famille Utopia. Axel, Emma, Jimmy, Enzo et bien d'autres encore. Les barbiers déchaînés vont faire leur grand retour. Des professeurs et inspecteurs académiques seront interviewés. Et enfin, moment de grandes émotions, nous dirons au revoir aux élèves sortant de la radio, sans oublier nos précieux techniciens sans qui tout cela ne serait possible. Sans plus attendre, commençons cette journée d'anniversaire qui s'inscrit déjà dans la joie et l'allégresse.
Je crois qu'on va enchaîner tout de suite sur ta chronique, Emma, hein, parce qu'il y a un petit bug musique.
Au moins sans écouter de musique, on va commencer par en parler, comme je disais. Donc moi, je vais parler de musique et j'espère que je vais vous donner envie d'écouter de la musique si la prochaine fois ça fonctionne, du coup. Je vais vous parler du guitariste de métal néoclassique. Je vais vous parler de ce guitariste qui s'appelle Yngwie Malmsteen. Alors oui, c'est aussi difficile à prononcer qu'à écrire. C'est un guitariste de métal suédois qui est connu pour avoir été celui qui a un peu popularisé le métal néoclassique. Il est aussi connu pour être un des guitaristes les plus rapides et les plus virtuoses. Et en fait, le métal néoclassique, c'est un sous-genre du métal qui est fortement influencé par la musique classique et qui va réutiliser de nombreux procédés de la musique classique dans une sonorité qui est celle du métal. On peut remarquer cette influence parce que Malmsteen, lors de ses remerciements, après un concert par exemple, il va remercier tous ses proches, les producteurs, les fournisseurs de matériel. Et au milieu de tous ces noms, on va trouver des remerciements à des compositeurs comme Bach, Vivaldi, Paganini, Beethoven. Donc on sait que l'influence de la musique classique sur sa discographie est complètement assumée. À première vue, c'est vrai que ce croisement entre métal et classique, ça peut paraître paradoxal. On imagine souvent que le métal, c'est une musique bruyante, brouillon, inharmonieuse, avec des gens qui crient, et que la musique, c'est à l'inverse, une musique sage, bien réglée, bien proportionnée, voire un peu ennuyeuse, avec des gens en perruque et tout ça. Et en fait, Yngwie Malmsteen, il va reprendre ses musiques classiques, et il va reprendre celles qui viennent d'une période spécifique, qui est la période baroque. Parce que la musique de cette époque, elle présente beaucoup de points communs avec le métal. Dans les deux cas, on peut remarquer la mise en avant d'un soliste virtuose. On sait par exemple que Malmsteen cherche à faire sonner sa guitare de la même façon qu'un violon baroque du XVIIIe siècle, et qu'il est très inspiré par le célèbre violoniste Paganini, qui était un peu la star du violon de son époque, et qui a inspiré en fait tous les guitareros de la fin du XXe siècle. Du coup, dans le métal comme dans le baroque, il y a une dimension spectaculaire, l'idée de mettre en avant des contrastes, de faire une musique dynamique qui bougerait tout le temps. Une autre façon pour ce guitariste d'assumer la référence à la musique classique, c'est de réinterpréter des œuvres sur sa guitare électrique. Dans ses lives, par exemple, il a déjà joué le 4e concerto pour violon de Paganini, la bourrée en mi mineur de Bach, des concertos de Vivaldi ou encore l'adagio qu'on attribue à Albinoni. Dans tous les cas, il y a toujours un lien avec la musique pour violon et on sent chez le guitariste l'envie de transposer le mode de jeu du violon soliste et virtuose, qui est l'emblème de la musique baroque, à la guitare électrique. Par ailleurs, la production de Malmsteen est aussi parsemée de références à la musique baroque qui se retrouve dans sa façon de composer. Par exemple, l'introduction du morceau Black Star, on peut entendre dans sa guitare une façon de jouer qui peut faire penser à un luth avec des accords arpégés. Dans le morceau Little Savage, on peut même entendre un solo de clavecin qui se déploie sur un enchaînement d'accords qui est typique du XVIIIe siècle. Il ne faut pas oublier qu'on est avant tout dans un style de métal et que toutes ces références à la musique baroque vont venir créer un contraste avec la sonorité de la guitare électrique saturée. D'ailleurs, la formation utilisée par Malmsteen, c'est celle du métal, avec une batterie, une basse, une guitare, parfois un chanteur de métal. Finalement, le métal néoclassique, avec la référence au classique, pourrait être vu comme un détournement de cette musique classique, qui est déviée de son usage habituel pour être intégrée dans un style de métal. On parle de détournement en art quand une œuvre ou une pratique artistique est détournée, déviée ou dévoyée de sa fonction habituelle pour être réinvestie d'une manière nouvelle, novatrice. Il me semble que c'est ici le cas lorsque Malmsteen s'approprie les formes de la musique baroque et les combine à des sonorités saturées de guitare électrique pour en faire un nouveau sous-genre du métal. C'est donc un détournement, et dans ce détournement musical, il ne s'agit plus seulement pour Malmsteen de jouer de la musique, mais plutôt de se jouer de la musique.
Eh bien, merci beaucoup Emma. Donc oui, on peut le considérer comme un précurseur de ce métal néoclassique. Eh bien, avant de continuer, nous allons nous laisser quelque temps sur une de ses musiques, Black Star.
We'll be right back.
Vous êtes de retour sur la web radio Utopia, émission des 10 ans. Vous venez donc d'écouter Black Star de Yngwie Malmsteen. Un grand bravo à toi, Emma, pour ce grand retour. À présent, trois professeurs du lycée Jean Lursa, mesdames Brouchos, Garagnon et Michalon, prennent de leur temps pour être interviewés par Clara et Camille. C'est à vous.
Bonjour à tous et bienvenue sur la radio Utopia.
En cette année où nous fêtons les 10 ans de cette radio, nous avons la chance d'interviewer Madame Brouchos et Madame Garagnon, professeurs de sciences économiques et sociales, et Madame Michalon, professeure de lettres histoire, toutes enseignantes au lycée Jean Lursa. Bonjour.
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 Comment allez-vous ?
Ça va très bien. Moi, je suis ravie d'être ici et d'être interviewée par mes élèves, par mes anciennes élèves de seconde. Je suis ravie de les voir évoluer comme ça et s'exprimer aussi bien à l'oral aujourd'hui.
Merci d'être là, en tout cas.
Merci.
Alors, ma première question, c'est... Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'EMI exactement, s'il vous plaît ?
Ah, ça commence par une question dure d'entrée, là. Hein. Si j'avais su, je préparais.
Moi, j'ai pas révisé.
Alors, l'éducation aux médias, c'est ça ? Vous voulez qu'on explique ?
Médias
alors,
et l'information.
Moi, je pense que... Mais je vais parler en premier tout le temps.
Tu as pris la parole, je te laisse.
Vas-y.
L'éducation aux médias, je pense qu'elle n'a pas suffisamment sa place au lycée. Et je remercie Madame Grand de l'avoir introduit dans les enseignements et de nous avoir donné l'occasion de travailler sur ce média qui est la radio. Moi, en particulier, en tant qu'enseignante, ça m'a beaucoup appris d'échanger avec Madame Grand sur cette forme de communication. C'est vrai que ça m'a beaucoup appris parce que jusqu'à présent, les instructions officielles nous demandaient de travailler beaucoup l'écrit et le langage écrit. Or là, j'ai découvert un nouveau mode de communication qui était essentiel, c'est l'oral. Ça m'a permis aussi de faire mieux comprendre aux élèves l'importance des sources des informations et de la construction du savoir, c'est-à-dire comment on choisissait ce qu'on allait dire, quel sujet on allait aborder, sous quel angle, sous quelle problématique. Et donc, ça m'a permis d'aborder avec les élèves des choses qui sont très importantes, c'est-à-dire comment on construit l'information, comment on présente une information, que le choix d'un sujet, que le choix d'une problématique était déjà un point de vue. Et donc, je trouve que l'éducation aux médias a toute sa place au lycée, mais que dans nos enseignements respectifs, on n'a pas suffisamment l'occasion de l'aborder. Voilà.
Donc, j'en profite, je prends le relais. Moi, je trouvais qu'en plus des sources... L'avantage, c'était de pouvoir permettre aux élèves de leur apprendre à diffuser un message, et notamment à travers leur voix et leur manière de s'exprimer, pouvoir être persuasif dans la manière de s'exprimer, de transmettre une information. Et donc, c'était l'avantage de la radio que j'ai découvert maintenant, il y a 3 ans, avec Madame Grand.
Alors, pour ma part, en fait, la radio, ça a été un moyen de faire du français de manière détournée, on va dire. Parce que, comme le disait Madame Brouchos, on nous demande beaucoup d'axer le travail sur l'écrit. Et on laissait un peu de côté la partie orale. Et la manière de s'exprimer est quand même assez importante. Et mes élèves au lycée professionnel, généralement, ils ont un peu de mal à s'exprimer et à organiser leurs propos. Donc l'outil radio a été un moyen pour moi de leur faire mettre déjà par écrit ce qu'ils voulaient dire. Réfléchir à ce qu'ils allaient dire, en fait. Parce que généralement, ils ont tendance plutôt à parler, pardon, sans vraiment réfléchir à ce qu'ils vont dire. Et là, ça permettait d'organiser la pensée et la parole, et d'adapter aussi la parole au public auquel on a affaire. Voilà. Donc ça rentrait vraiment dans le programme de français. C'était un moyen aussi pour travailler les médias, qui, là encore, c'est une thématique du programme de français en lycée pro.
D'accord. Comment vous positionnez-vous par rapport à vos cours dans l'éducation aux médias ?
Moi,
comme Madame Garagnon, on a utilisé les heures d'éducation civique pour travailler cette question de l'éducation aux médias, puisque les objectifs de l'éducation civique, c'est... des thèmes qui sont toujours liés au droit de la République. Et donc, ça nous permettait d'aborder des thèmes d'actualité tout en enseignant les objectifs de l'EMC à travers des thèmes d'actualité.
L'avantage, c'est que ça avait aussi un côté ludique pour les élèves. Parce que faire de l'EMC comme avec les mêmes pratiques qu'un cours habituel, ça avait un côté un petit peu... pour les élèves, ils avaient du mal à s'investir. Or là, en leur proposant de construire une émission radio, puisqu'on avait un peu plus le temps sur les, dans l'ancien programme, construire une émission radio leur permettait d'aborder une thématique de manière ludique et du coup, ils s'appropriaient davantage les contenus parce qu'ils y prenaient plaisir. Et c'est vrai qu'on a rencontré très peu d'élèves qui n'ont pas voulu vraiment s'investir. Je crois qu'au cours des 3 ans, j'ai une seule élève qui n'a pas voulu présenter sa chronique au micro. Alors qu'on a énormément d'élèves qui sont très timides, qui ont une peur de l'oral. Et là, vraiment, ils se prenaient au jeu. Et au fur et à mesure, ils osaient prendre la parole et ils prenaient même à la fin du plaisir.
D'accord.
Alors, pour ma part, c'est sur l'éducation aux médias. Du coup, j'ai zappé la question. Donc, c'était sur l'éducation aux médias. Nous, on a un problème avec les médias, en fait, en lycée pro, c'est que le terme « média », ça se résume à réseaux sociaux. Donc, en fait, l'idée, c'était de voir qu'il y avait d'autres supports médiatiques. Et l'idée, c'était de les initier un peu à cette pratique avec laquelle ils n'ont pas l'habitude de travailler. Voilà.
D'accord. Et si vous pouviez recommencer la radio, est-ce que vous le referiez?
Avec plaisir.
On continue chaque année.
D'accord.
Chaque année.
Alors, sans hésitation, moi, si je pouvais, je le ferais. Par contre, cette année, à mon grand regret, la structure des horaires officiels, vu le programme officiel aujourd'hui, ne m'a pas permis de trouver les heures adaptées pour le faire. C'est-à-dire qu'avant, je le faisais sur les heures d'éducation morale et civique en terminale. Et aujourd'hui, ces heures, elles ne sont pas suffisantes pour pouvoir avoir le temps de faire quelque chose de bien. Bon, surtout, vu le contexte actuel avec le Covid et tout ça, je n'ai pas trouvé les heures pour pouvoir le faire. Mais j'espère qu'à l'avenir, je pourrai le refaire.
C'est vrai qu'on l'a fait énormément de manière partielle. C'est-à-dire qu'on a juste enregistré des chroniques individuelles cette année. Et on va pouvoir réaliser une petite émission d'une heure, mais en cette fin d'année, et un petit peu rapide, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Alors que d'habitude, on y consacrait 2 heures sur 6 mois, 2 heures par semaine. Ça permettait aux élèves de vraiment construire une émission de qualité.
D'accord. Et que faire pour améliorer?
Alors, l'amélioration se porte vers la direction. Un aménagement des emplois du temps qui permet justement d'organiser ce projet-là. Et ça demande de réorganiser les emplois du temps pour pouvoir suivre les élèves sur une demi-année en les ayant 2 heures hebdomadaires sur 6 mois et en prenant un autre groupe, 2 heures hebdomadaires sur 6 mois pour pouvoir réaliser 2 émissions dans l'année avec 2 groupes différents. Parce qu'à 1h15, c'est trop difficile de faire en sorte que les élèves puissent investir correctement dans le projet. Et à la fin, il y a une lassitude qui se crée parce qu'ils n'arrivent pas à voir la finalité du projet quand ça prend vraiment trop de temps. Voilà. Donc, c'est vraiment un aménagement des emplois du temps.
D'accord. Quels sont les avantages et les inconvénients de la web radio?
Alors, l'avantage essentiel, c'est, comme l'a dit Madame Garagnon tout à l'heure, c'est l'aspect communication orale. Et avec la réforme du bac et la place que prend le grand oral aujourd'hui, dans la filière générale en tout cas... C'est essentiel que vous sachiez, en tant qu'élève, vous exprimer correctement et faire passer un message. Justement, ce qu'on explique aux élèves, c'est que ce n'est pas parce qu'on dit quelque chose que le message va être reçu par la personne qui est en face. Et quand vous faites de la radio, vous travaillez beaucoup sur le message que vous voulez faire passer. Donc, ça paraît essentiel pour cet aspect-là. Ensuite, le deuxième aspect, c'est la précision de ce qu'on dit. Dans la chronique d'Emma, tout à l'heure, elle a cherché à être précise, à la fois en partant d'un événement d'actualité et en même temps en amenant des connaissances qui nous ont intéressés parce qu'elle a traité d'un sujet dont personne, moi en tous les cas, je n'étais pas tellement au courant. Donc voilà, l'essentiel, c'est d'apprendre aux élèves comment faire passer une information. Voilà. Et puis le troisième aspect, c'est le côté ludique parce que c'est vrai que c'est une autre façon d'enseigner et qui m'intéresse. Moi, si je pouvais, je ferais ça. Voilà, j'ai 6 heures de cours en terminale. Si j'avais la possibilité, j'utiliserais 4 heures pour faire ça. Hein. Mais bon, il y a le programme à terminer.
Oui, c'est vrai que l'avantage, c'est vraiment de préparer les élèves à un exercice qu'ils n'ont pas l'habitude de préparer dans le domaine scolaire. Il y a forcément les exposés en classe devant élèves, mais prendre la parole de manière individuelle ou en duo, en écoutant sa propre voix, puisqu'ils n'ont pas l'habitude, même nous aujourd'hui, ça nous fait un petit peu bizarre d'entendre notre voix, on n'a pas l'habitude, hein, on les plonge dans cet exercice sans le pratiquer nous-mêmes. Et en fait, je trouve que cet exercice, dès la seconde, ils n'en ont pas conscience, mais on les prépare au nouvel examen du baccalauréat qui est le grand oral. Et je dis que c'est comme un enfant qui apprend à marcher avant d'apprendre à courir. Eh bien là, dès la seconde, on lui apprend à se positionner, à poser sa voix, à argumenter, à être persuasif. Et le grand oral, finalement, ben, ça ne sera qu'un exercice qu'il aura l'habitude d'appliquer. Et donc, finalement, il sera beaucoup plus à l'aise à l'oral.
Alors, un des avantages, pour ma part, c'est effectivement que ça permet de travailler l'oralité, l'éducation aux médias, etc. Et il y a un inconvénient quand même, c'est peut-être oui, effectivement le manque d'heures. Mmh. En lycée professionnel, on a quand même un programme qui est assez chargé. Et il faut arriver à inclure cette partie web radio pour pouvoir faire le projet. Donc, c'est un des inconvénients. Et après, je pense qu'il y a un autre inconvénient, c'est peut-être... Enfin, pas un inconvénient, mais il manque quelque chose. C'est des moyens, peut-être. Peut-être que vous auriez besoin de moyens supplémentaires en termes de micro, en termes d'équipement informatique, etc., qui permettrait à un plus grand nombre d'élèves, on va dire, de participer ouais. ou de se joindre à cette web radio. Voilà.
Alors, vous avez fait de la radio, mais est-ce que à côté, vous écoutez de la radio ?
Non, jamais.
Jamais.
Si, on écoute la radio.
En voiture.
Ben, le matin, avant d'arriver au lycée, voilà. On a la radio. Oui. En repartant, on a la radio aussi.
Et vous voulez savoir nos radios préférées ?
Oui. S'il vous plaît.
Alors, devinez ce qu'un prof peut écouter comme radio.
Radio classique.
France Inter.
Comment avez-vous fait pour deviner ?
Pour avoir des ados à la maison, il faut compléter avec Skyrock, Radio Star, Chérie FM, et pour avoir des parents avec Nostalgie. Et là, c'est complet.
Alors moi, je conseille à mes élèves France Culture. Hein, c'est le grand oublié. Je sais que Madame Grand, c'est pas sa radio préférée d'après ce qu'elle m'a dit, c'est ça ? Non, je plaisante. Non, moi, j'ai un faible pour Guillaume Erner sur France Culture. Voilà. J'ai un faible pour ce journaliste.
Alors moi, je serais plutôt sur RMC. Désolé.
Chacun les siennes.
Mais une émission en particulier, c'est celle des grandes gueules, en fait. Donc voilà. Après, en termes de radio plus musicale, ben, je serais plutôt tenté de dire Skyrock, malgré mon âge. Radio Star aussi. Et Nostalgie, ben voilà. Parce que ça me remémore des moments passés.
J'osais pas dire nostalgie. Moi, je n'osais pas dire nostalgie parce que j'essayais de cacher mon âge, en fait.
Mais
hein.
Non, pas honte.
C'est une plaisanterie. Hein.
Eh bien, merci beaucoup pour ce temps accordé. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi.
Merci. Ben, vous aussi, merci de nous avoir reçus.
Merci.
Au revoir.
Bien. Merci beaucoup à vous trois. Oui, nous avons une chance énorme de pouvoir nous exprimer dans une radio scolaire. Et alors, le plus, si on arrive à nous enseigner avec, c'est encore mieux. Après la musique, nous écouterons la chronique philosophie de Madame Lolland. Thank you. Vous êtes de retour sur la web radio Utopia. Vous venez d'entendre The Thing She Said de Tattoo. J'espère que vous nous suivez encore. Ce n'est pas fini. Madame Lolland va nous présenter sa chronique philosophie. Pourquoi est-ce important les dates d'anniversaire ?
Bonjour à tous. C'est génial. On est tous là, tous ensemble, au lycée, pour fêter la fête, autour d'un projet commun qui crée une histoire, Utopia. 10 ans. Elle est où, Madame Lolland ? Madame Grand. Merci. Merci, Madame Grand. Mille merci pour porter ce projet et permettre à tous de s'en emparer. Voilà. C'est bien à cela que sert un anniversaire. Rassembler les forces pour révéler un bref instant toute notre puissance d'agir. Un anniversaire, c'est un condensé de temps qui montre qu'on n'a pas perdu notre temps. Chaque nouvelle année conduit une nouvelle équipe, constituée d'anciens et de nouveaux. Il faut sans cesse réapprendre et répéter, mais le temps n'est jamais le même. Chaque nouvelle personne apporte une nouvelle matière au projet commun qui s'enrichit par couches successives d'engagement et de signification. Fêter un anniversaire, c'est revivre des moments du passé. Non pas pour les regretter avec mélancolie, mais pour se rappeler notre puissance d'agir. Dans le présent, on vit l'effort de la réalisation sans pouvoir toujours pleinement mesurer son ampleur et son impact. Mais avec le recul du temps, on aperçoit les chemins qu'on a parcourus et qui nous ont aidés à nous individuer, c'est-à-dire à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Madame Grand est constituée d'un petit peu de vous tous, car chaque rencontre a créé une relation qui a participé à individuer des parties en elle qui étaient encore irrésolues. Elle ne m'écoute pas. Je me suis perdue. En vous transmettant son savoir-faire et surtout sa passion, vous lui avez transmis en retour votre capacité à vous emparer de ses outils pour vous les approprier. Chacun de nous contient à présent une petite part d'Utopia. Et de chacune et chacun, de ses actrices et acteurs, et même ceux que nous n'avons pas rencontrés en vrai, eh bien ils nous ont touchés aussi par procuration. Ils sont Utopia, nous sommes une part d'Utopia. Et ces liens matérialisés aujourd'hui dans la présence de chacune et chacun est la matière du temps qui permet au projet de durer. Et c'est à cela que sert un anniversaire, à donner une existence matérielle à toutes ces relations invisibles qui tissent la réalité d'une vie, la réalité d'Utopia. Madame Grand porte cette mémoire et chacune, chacun apporte un éclairage au projet. Ces perspectives éclairées se rencontrent dans une intersection. Aujourd'hui, les 10 ans d'Utopia. Chères utopiennes, chers utopias, bien, Utopia n'est pas un rêve, et nous en sommes la preuve. Et voilà, et c'est peut-être aussi à ça que servent les anniversaires, montrer que la vraie vie est la réalisation de nos rêves, et que les choses arrivent, et que les choses se passent, à condition de donner les moyens à l'intelligence collective de s'épanouir. On n'a pas le droit, les enfants, de ne pas vous faire confiance. On n'a pas le droit de ne pas tenir ses promesses. Le premier outil à transmettre, c'est la confiance pour que chaque engagement et chaque promesse puisse se réaliser. À Utopia, chacune et chacun apprend à s'emparer de sa liberté pour changer la voie du monde. Et on y croit tous. Merci.
Eh bien, merci à vous, Madame Lolland. Nous vous applaudissons tous autour du plateau. Merci à vous, nous partageons cette joie tous ensemble. Utopia n'est pas un rêve, mais Utopia vous vend du rêve. Et c'est très important. Non, non. C'est très important. À présent, Madame Lopez, qui est une inspectrice académique spécialisée en espagnol, fait le privilège de se déplacer jusqu'à nous en ce jour d'anniversaire. Bonjour, Madame Lopez.
Bonjour, bonjour à tous.
Voilà. Donc, Lucie et Hugo vont nous éclairer sur votre métier en vous interviewant.
Alors, je ne sais pas si en tant qu'inspectrice, je vends du rêve, mais je veux bien imaginer en vendre auprès des enseignants.
Oui, justement, Madame Lopez, vous êtes inspectrice espagnole. En quoi ça consiste ?
Alors, c'est un vaste programme. Hein, donc, les inspecteurs ont énormément de responsabilités. Ils sont le garant de la qualité de l'enseignement. Hein, donc, bon, je parle pour la discipline de l'espagnol. Ils impulsent les réformes. Hein, ils accompagnent les enseignants dans les réformes. Ils valorisent aussi leurs actions. Et je crois que voilà, si je suis là aujourd'hui, je vous remercie pour l'invitation. C'est aussi une façon de valoriser le travail des enseignants, des projets et des élèves. On a énormément de missions. On travaille avec énormément de partenaires, hein, le service des examens, puisque nous sommes aussi en responsabilité des différentes épreuves au baccalauréat. Nous travaillons avec les relations internationales, hein, parce que vous, en tant qu'élève, vous participez à des partenariats et vous pouvez aussi faire des mobilités à l'étranger. Voilà, je crois que j'oublie énormément de missions. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les enseignants dans leur pratique.
Et en plus, du coup, de toute votre mission d'inspectrice, vous êtes aussi responsable du réseau de Code Bleu ?
Alors, responsable, je crois que c'est un mot un peu fort. Je suis une des inspectrices référentes. Hein, je ne suis pas seule, nous sommes plusieurs. Il y a des inspectrices du premier degré, il y a des inspecteurs second degré lycée professionnel. Et donc aussi avec mon collègue d'histoire-géographie, donc nous travaillons en collaboration avec tous les chefs d'établissement et également les coordonnateurs du réseau Côte Bleue. Hein, c'est-à-dire que, alors je ne sais pas si vous savez quelle est la limite du réseau Côte Bleue, hein, mais il s'agit de tous les collèges de Martigues, Port-de-Bouc, de Saussay-les-Pins, de Châteauneuf-les-Martigues et également les lycées professionnels. Et voilà, nous travaillons ensemble à donner une dynamique au réseau, une synergie, hein, pour que, en fait, toute notre réflexion aille jusque dans les classes, hein, dont nous essayons vraiment de travailler main dans la main pour avoir un projet de réseau, hein, c'est-à-dire qu'on définit des axes de travail sur lesquels bon, nous réfléchissons. Mais l'idée, c'est vraiment aussi de créer des conseils pédagogiques de réseau, hein, auxquels sont associés, bien évidemment, les enseignants, pour qu'ensuite, ça puisse aller jusque dans vos classes et que ça puisse impacter les pratiques pour que vous puissiez apprendre mieux.
Et donc, c'est très important comme réseau. C'est oui, bien compris.
D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la mise en réseau du studio Utopia ?
Alors ben là, c'est plutôt Madame Grand qui pourrait répondre. Mais voilà, l'idée, c'est que la web radio Utopia serait un lieu. Tout à l'heure, Madame Lolland parlait d'intersection. Hein, ça serait peut-être l'intersection de tous les établissements du réseau, c'est-à-dire des écoles jusqu'au lycée, et que cet endroit soit un lieu d'échange et de prise de parole. Pour que voilà, les élèves puissent se rencontrer, mais aussi voilà, dire ce qu'ils ont à dire, montrer leur imagination, leur créativité, et que cet espace de parole soit vraiment le leur, mais sur tout le réseau.
Si je peux me permettre de juste rajouter une chose, c'est que le lancement de la mise en réseau du studio, c'est maintenant, là, c'est aujourd'hui qu'on l'inaugure. Et ça va attaquer concrètement en septembre. Mais c'est surtout prêter un lieu, un studio qui existe au sein du lycée pour que les enseignants du réseau Côte Bleue puissent en bénéficier, donc puissent venir avec leurs élèves effectivement réaliser des émissions. Après, l'idée, ça serait pourquoi pas créer une web radio réseau Côte Bleue avec l'ensemble de ses productions. Mais ça reste ça un projet pour l'avenir. J'espère le plus proche possible, bien sûr.
Oui, ça serait bien. Je pense que ça aiderait plus d'un élève. Ça serait important quand même.
Oui, parce que tout à l'heure, hein, les enseignantes, enfin, vous avez évoqué le grand oral. Hein, l'idée, c'est qu'on multiplie, j'allais dire, les outils pour que les élèves puissent développer leur prise de parole. Et je trouve que, justement, Utopia est un de ces outils fantastiques pour pouvoir développer la prise de parole.
Exactement. Donc, l'EMI dans l'éducation nationale, selon vous, c'est essentiel ou pas ?
Alors, c'est absolument essentiel et voilà, l'éducation aux médias peut-être doit encore davantage être au cœur des apprentissages, mais aussi au sein des classes, hein, et peut-être pas quelque chose aussi à côté, hein, je veux dire comme peut-être un supplément d'âme, quelque chose qu'on ferait en dehors des cours, mais vraiment intégré dans chaque séquence, hein, enfin dans chaque séquence. Au moins, chaque enseignant dans ses séquences puisse intégrer cette dimension d'éducation aux médias.
D'accord.
Oui, désolé. Pouvez-vous nous dire si la place de l'EMI, du coup, enfin de l'EMI, est importante au niveau du réseau Côte Bleue ? J'imagine que oui. Mais...
Alors, je pense qu'elle est importante, puisque aujourd'hui, justement, je veux dire, c'est le témoignage de l'importance de l'éducation aux médias. Cette éducation aux médias aussi, au niveau du réseau, je pense que vous en êtes acteur, hein, puisque, alors, je ne sais pas si Madame Lamia Bassi viendra ou pas, mais elle pourrait mieux vous en parler, puisqu'elle coordonne le groupe des élèves délégués, hein, et justement, il y a toute une réflexion sur la citoyenneté, mais aussi l'éducation aux médias.
Le climat scolaire aussi.
Le climat scolaire, bien évidemment.
Très bien. Du coup, on va se recentrer sur votre métier d'inspectrice, le mouvement du réseau Col Bleu. On va s'éloigner un peu de cette thématique-là. En tant qu'inspectrice, quelle est votre journée type, votre routine, des horaires, travailler en équipe ?
Alors, ma journée type. Alors, peut-être aujourd'hui, j'ai animé une visioconférence, un groupe de travail qui doit élaborer des sujets d'épreuves communes pour le baccalauréat, voilà, par exemple, pendant 3 heures. Mais tout ça, ça demande de la préparation, hein, en amont. Ça peut être un jour, pendant la semaine, voilà, des inspections. Hein, nous déplaçons. Donc nous sommes 2 inspectrices espagnoles, hein, si je prends le modèle de l'espagnol, où nous couvrons tout le territoire, c'est-à-dire que nous allons jusqu'à Briançon, nous allons jusqu'à Arles, nous allons jusqu'à La Ciotat, hein, donc une grande académie. Des inspections, ça peut être des réunions, travail collaboratif avec mes autres collègues inspecteurs, hein, sur des sujets plus transversaux, hein, tels que j'allais dire la différenciation pédagogique, la mise en place des réformes. Hein, la mise en place de la réforme du lycée nous a demandé énormément de travail, d'accompagnement des enseignants. Qu'est-ce que je pouvais vous dire ? Je travaille également sur le label Euroscol, hein, c'est-à-dire la labellisation européenne, c'est-à-dire un label qui reconnaît l'implication des établissements dans l'ouverture à l'international. Hein. Donc nous devons lire les dossiers des candidats et puis voilà, accorder ou pas le label et accompagner aussi ces établissements qui souhaitent avoir le label Euroscol. Je cherche. Enfin, beaucoup de missions.
Oui, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous faites beaucoup de choses en tant qu'inspectrice. Oui.
D'accord. Donc, une question très importante maintenant. Une inspectrice, qu'est-ce que ça fait pendant les vacances scolaires ?
Ça travaille. En fait, ça n'a jamais fini parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive sur la boîte mail. Il faut préparer. Alors, on n'a pas terminé l'année qu'il faut préparer la rentrée, puisqu'on est aussi en charge de la formation, formation des enseignants. Hein, donc, on élabore des formations, et on cherche les formateurs. On doit préparer la rentrée, puisque, voilà, on a des professeurs stagiaires. Hein, donc, il faut voir comment on va les accompagner, qu'est-ce qu'on va leur dire au départ. Et puis aussi, je crois qu'on est toujours... Et puis, je pense que les enseignants aussi, hein, même dans nos lectures, on se dit toujours, ah tiens, ça, ça serait pas mal pour la formation. Tout comme l'enseignant se dit, ah tiens, tel texte, je pourrais l'utiliser en classe. Voilà, je crois que l'élève, il est toujours au cœur de nos préoccupations, autant dans l'inspection que chez les enseignants. Donc, mais l'inspectrice part aussi dans les Landes faire du surf.
Donc vous avez un emploi du temps très chargé. Est-ce que vous avez du temps libre ?
J'ai très peu de temps libre, en fait. On essaye de se mettre des limites, mais c'est difficile. Hein. On peut rester jusqu'à minuit devant l'ordinateur. On essaie quand même le week-end de couper. Mais en fait, voilà, on est toujours... disponible pour les enseignants qui nous écrivent, hein, puisque enfin, nous, on se fait quand même un point d'honneur à chaque mail reçu de donner une réponse à nos enseignants, parce que finalement, je crois qu'en espagnol, on a créé beaucoup de proximité avec nos enseignants qui nous écrivent facilement, et ça, bon, voilà, on apprécie aussi cette confiance que nous avons su établir.
D'accord, il faut toujours être prêt à recevoir un mail
et y répondre.
D'accord.
Du coup, j'imagine qu'on ne devient pas inspectrice en faisant une certaine école. Ou... Enfin, comment on devient inspectrice ?
Alors, comment on devient inspectrice ? Alors, ça dépend d'où on vient, enfin, comment on a envisagé le métier. Enfin, moi, voilà, c'est quelque chose. J'étais enseignante d'espagnol. Hein. Je n'avais jamais songé à ce parcours-là. Hein. C'est quelqu'un qui est venu me chercher et qui, j'ai commencé à être formatrice. Après, j'ai été chargée de mission, hein, c'est-à-dire qu'on vous donne des missions d'inspection. Et j'ai été recrutée par voie de détachement. Hein, alors, il y a plusieurs voies de recrutement chez les inspecteurs, que ce soit par voie de détachement ou par concours. Et j'ai commencé le métier. Pendant 3 ans, vous êtes un peu stagiaire et vous êtes titularisé au bout de la 3e année. Mais pour moi, ce n'était pas du tout quelque chose que j'avais envisagé. Je ne me voyais pas dans ce métier-là. D'ailleurs, les contours pour moi étaient très flous. Hein. L'inspecteur, c'est seulement celui qu'on voit inspecter. Hein. Vous voyez des fois des personnes qui viennent en cours, vous ne savez pas trop qui c'est, ou on vous dit « bon, il y a l'inspecteur, faites comme d'habitude ». C'est un métier passionnant parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et en fait, quand on sort de la classe, on s'aperçoit qu'il y a une dimension qu'on ne connaissait pas. Et je crois que c'est très intéressant pour ça.
Donc, il faut forcément passer un concours. Et il faut forcément être professeur avant d'être inspecteur ou
Alors, ça dépend la catégorie d'inspecteurs. Hein, les inspecteurs de vie scolaire qui, eux, par exemple, ont été chefs d'établissement auparavant, avant de passer le concours d'inspecteur.
D'accord.
Est-ce que vous vous déplacez beaucoup pour votre métier ?
Oui, hein, tout à l'heure, je disais que nous couvrons, avec ma collègue, toute l'académie. Donc, on se déplace énormément. On fait beaucoup de kilomètres. Pour aller rendre visite, pour se rendre dans les classes.
Ça a l'air vraiment chargé, votre emploi du temps et tout votre métier. Ça a l'air compliqué, tout ça.
Tout métier a ses avantages et ses inconvénients. Voilà, quand même, les points positifs, c'est la rencontre des enseignants, des élèves, hein, parce que souvent, on nous dit « bon, mais vous ne regrettez pas d'être sorti de la classe ». Moi, je ne regrette pas parce que finalement, les élèves, je les vois tous les jours, hein, puisque je vais dans les classes tous les jours et j'adore les rencontrer, leur demander comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont appris à faire, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils connaissent, qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Et tout ça, ça permet de maintenir le lien avec les élèves.
D'accord.
Du coup, pardon. Dernière question pour conclure cette interview. Pourquoi l'espagnol ? Est-ce que c'est une passion que vous avez pour cette langue ou c'est venu comme ça ?
Alors, comme vous voyez, comme je suis habillée aujourd'hui, c'est un peu, voilà, on dit un vestido de lunares, hein, robe à pois, c'est un peu, je veux dire, le symbole folklorique de l'Espagne. En fait, bon, je m'appelle Lopez, mais en fait, j'ai appris l'espagnol, comme vous tous, à l'école. Et en fait, c'est à cause d'un professeur d'espagnol qui m'a fait adorer l'espagnol, que j'ai souhaité être professeur d'espagnol, puis inspectrice d'espagnol. Et je crois que, voilà, tous les enseignants, enfin, ceux qui deviennent enseignants, ont quelque part dans leur mémoire un professeur qui leur a donné le goût de la discipline, et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'être enseignants de telle discipline.
Très intéressant, merci.
Très bien, merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci, Madame Lopez. Comme nous l'entendons derrière, donc les élèves remontent en cours. Alors, après la musique, nous entendrons le sketch des Barbiers déchaînés. Mais avant de continuer, nous laissons quelques secondes sur City of Angel de 24K Goldman. I sold my soul to the devil for a designer. They said, go to hell, but I told them I don't wanna. If you know me well, then you know that I ain't going. Cause I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna die young. The city of angels where I have my fun. Don't wanna die young. When I'm gone, vous êtes de retour sur la web radio Utopia, donc vous venez d'écouter City of Angel de 24K Golden. À présent, vous l'attendez sûrement tous, les Barbiers déchaînés font leur grand retour sur Utopia après plusieurs années d'absence. Bonjour.
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 C'est à vous.
C'est à nous.
Enfin, je crois que c'est à moi parce qu'elles m'ont demandé une interview spéciale.
Nous
ne savons plus très bien à qui nous avons affaire.
Les Barbiers déchaînés.
Bon, on peut faire une présentation rapide.
C'est moi qui pose des questions ou c'est vous là ?
Ben, on se présente.
On va se présenter.
Vous présenter après, d'accord.
Enfin, on a quand même une certaine renommée. Donc.
Ouais. Vous avez pris la grosse tête là avec le temps, non ? Ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu.
C'est parce qu'on a sorti deux, trois impros sur YouTube. Là, on a une chaîne.
Ouais.
Bon, n'hésitez pas. Hein, on est pour l'instant 4-5. Voilà. N'hésitez pas à venir.
À checker
venir
tout ça, quoi.
Voilà. C'est ouais, ça. Voilà. C'est,
checker, bah, du coup, c'est Victor. Hein, Victor Vicento, voilà. De la Playa.
Donc, je suis avec Victor Vicento de la Playa.
Voilà.
Donc, c'est un des deux Barbiers déchaînés, bien sûr. Moi, je suis Igor Gringo de las Calles. Alors, pourquoi Gringo de las Calles ? Parce que dans le gringo, on entend bien, vous voyez, le gringo, C'est la sonorité, en fait, ça montre.
On l'épelle avec deux R, en fait.
Deux R, ouais. Évidemment, deux, ou trois, ça dépend. Ouais, ça dépend d'où on se trouve, dans quel pays. Et donc, la sonorité assez élevée, je crois que c'est un triton, hein, finalement. Mm-hmm. Ça, non, pas du tout. Ça aide, justement, à comprendre notre genre musical et à comprendre que nous, c'est pas... Pierre qui roule, quoi, voilà. Pierre qui roule n'amasse pas le flouze.
Alors, si je peux me permettre, vous étiez venu à Utopia en 2016,
c'est ça,
le concert humanitaire, et vous aviez joué en direct un tube, votre tube de l'époque, qui s'appelait...
Tartiflette. Tartiflette, bien sûr.
Voilà,
bien sûr, 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 bien sûr.
Et donc,
c'est ça. Et donc, alors là, ça sera pas raclette, hein.
Non. Vous avez un nouveau tube à nous proposer, je crois.
Peut-être vers à la fin de l'interview.
Mais je crois que c'est bientôt la fin de l'interview.
C'est
en
vrai.
Ah bon. Alors, on a un autre tube. Alors en fait, nous, je vous explique par rapport au voyage humanitaire.
Ouais.
Alors,
on a fait un voyage humanitaire, en fait.
Voilà.
Et
ben en fait on souhaite, voilà, donc on a fait déjà des petits repérages tout ça en Afrique de l'Ouest.
De l'Est.
Exactement, et dans les pays de l'Est aussi, mais ça a pas de rapport, donc l'Afrique de l'Ouest. Mm-hmm. Et on s'est dit, en revenant, on s'est dit on va repartir parce que c'était pas assez, et là d'un coup des sonorités, des plein de choses qui vous ont inspiré, et même les tenues vestimentaires, hein. Mais là on parle pas du tout de ça, donc je vais m'arrêter là. Mais par exemple, pour ce qui est des musiques, on a été inspirés.
Oui.
Alors, on a créé un petit quelque chose. Enfin, là, pour l'instant, c'est un petit quelque chose, mais ça va devenir un grand tube. Hein,
ouais,
voilà.
Ouais.
Je pense que ça fera le tube de l'été.
Ouais,
sûrement. Ça s'appelle. C'est, vous avez le titre
Alors, Africana.
D'accord. Ah, oui. Bon, voilà, on vous écoute. On applaudit les barbiers déchaînés, s'il vous plaît.
Merci à tous.
Allez. Tu m'attends au pire. Hein.
Okay. Du coup, moi, c'est à la percu. Et elle, c'est.
C'est l'harmonica.
Ouais. C'est la percu invisible. Hein. Je vois pas de percu.
Moi, en fait, j'ai, on va dire, une puriste du son. C'est-à-dire que je préfère utiliser mon corps et les objets qui
d'accord.
Autour de moi.
Ok.
La bouteille d'eau, par exemple.
C'est très organique. C'est très voilà.
Voilà.
On vous écoute. On vous écoute. Allez-y, les barbies déchaînées.
Voilà. Donc moi j'ai mon harmonica que j'ai trouvé. Enfin, c'est pas du tout un harmonica de famille qu'on se donne de génération en génération. J'ai trouvé à Auchan la semaine dernière. C'est parti.
Super.
Alors ça fait. Ça
fait. Décompte,
alors ouais, vas-y. 15, alors 10, 9,
15,
je crois. À
15. Ouais.
Ok. 20.
16.
10. 14. 15.
2. 3.
2. 1.
0.
Allez.
Ok.
Alors ça fait.
Africa.
J'arrive. Okay. C'est les débuts. Attendez. Bah après, c'est un harmonica d'Auchan quand même. Okay, ça reste pas.
On reprend.
Ça fait.
2, 3, 2, 1,
4.
Oh yeah! Bravo!
Merci à tous. Vraiment, et par contre,
je suis bluffée là, tu as vachement progressé en 4
beaucoup.
Ans. Hein.
Il y avait du chant.
Et
en fait,
il y a du chant, il y a les percus de Myriam. Donc, on va, okay. si ça vous arrange pas, bon, on la refait.
Allez,
rapidement, rapidement. On y va.
Je reprends. Et
alors,
c'est pas Myriam, hein, c'est Igor.
Et Igor, bien sûr. Non, enfin, Vincenzo. On la reprend.
Ok,
c'est parti. Bon.
Africa. Non.
Africa.
Non.
Bravo.
Merci bon. À tous.
Franchement,
merci.
Je pense que un gros succès assuré.
Merci.
Alors vous allez être en tournée, je suppose, dans les mois qui viennent.
Dans
là.
Où est-ce qu'on va passer
certains métros.
Bah oui, les métros.
Alors le métro à Martigues, bien sûr. Hein, c'est
le métro
connu.
À Martigues, voilà, il voilà. y a le
Début
le tram, voilà, début tout ce qui est...
Le tram...
Ouais, dans les blablacars aussi.
D'accord.
Dans les blablacars.
Ouais. Okay. Donc on fait le stop.
Dès
et
qu'on
on
voilà,
on
fait
bon,
le stop. Bah,
en tout cas, on était ravis de vous avoir, les barbiers déchaînés. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas
vu.
Vous m'avez vraiment manqué.
Ouais,
et voilà, on les applaudit encore, c'était super. Merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Marie. Merci à vous.
Très bien, merci beaucoup les barbiers déchaînés. Peut-être bientôt sur des sites de streaming musique. Hein, qui sait.
Ça, c'est évident.
Ce serait bien. Bon, eh bien, merci beaucoup. À présent, avant de nous quitter, nous allons recevoir Lucie Barrier qui va nous faire partager sa passion du cinéma et nous faire partager aussi son expérience de participation à un concours de court-métrage. Elle va être interviewée par Emma et Lucia. Bonjour Lucie. Très bien. Lucia, Emma, c'est à vous.
Hello les friends, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je vais trop giga bien parce que je suis avec ma coéquipière préférée, Emma.
Oh, je suis flattée. Mais dis-moi, Lucia, tu m'as parlé d'une interview. Mais qui recevons-nous en ce jour de fête?
Alors aujourd'hui, nous accueillons Lucie Barrier-Fennec, qui est une élève de seconde au lycée Jean Lursa, qui nous fait l'honneur de venir pour nous parler de sa participation au concours de court-métrage organisé par le Festival environnemental de Réguin à Fos-sur-Mer. Bonjour Lucie, comment vas-tu?
Bonjour, ça va bien et vous?
Ça va, merci.
Merci.
Il y a quelques semaines, lors de la semaine de la presse, nous recevions ton papa, Monsieur Gilles Fennec, qui nous a parlé de son métier, animateur radio à Maritima. Et maintenant, c'est toi que l'on reçoit et tu vas nous parler de ta passion, le cinéma.
C'est ça.
Depuis quand le cinéma te passionne?
Alors, je pense que depuis toujours, le cinéma en lui-même, mais vraiment la réalisation, ça a débuté en quatrième. Et depuis toute petite avec la photo, mais la vidéo, c'est plus en quatrième. Et après, je me suis du coup inspirée pour le cinéma pour la suite.
Et donc, tu es à l'option cinéma du lycée, c'est ça?
C'est ça.
Et est-ce que à l'inscription au lycée, c'était une évidence pour toi, cette option?
Ah ben oui, je suis venue justement dans ce lycée pour cette option-là, donc ça était vraiment inévitable.
Est-ce par cette dernière que tu as entendu parler du concours organisé par
De Réguin?
Oui.
Alors non, parce que ce concours a été organisé par la ville de Fos-sur-Mer, donc c'est via les réseaux sociaux de la ville de Fos que m'est venue cette information.
Et qu'est-ce qui t'a poussée à participer à ce concours?
Alors j'avais vu juste avant une conseillère d'orientation qui m'avait dit pour booster ton dossier Parcoursup, de participer notamment à ce concours. Et deux jours après, j'ai vu l'annonce de ce concours. Je me suis dit, c'est l'opportunité, il faut que je le fasse.
Ouais.
Le concours était-il ouvert à tout le monde?
Oui, il était ouvert. Comme c'était la ville de Fos, c'était plus réservé aux Fosséens, mais les gens d'extérieur pouvaient tout à fait y participer.
Tu sais à peu près combien de personnes ont participé? Enfin, ce concours, à peu près, pas un chiffre.
Il y a eu en tout, je crois, il me semble, 11 courts-métrages.
Ah oui, quand même.
Et c'était ouvert à tout le monde.
Et il y avait un thème en particulier?
Oui, c'était consacré à l'environnement, d'où le festival environnemental. Mmh. Et c'était consacré à la ville de Fos-sur-Mer, c'est-à-dire qu'il fallait essentiellement filmer la ville de Fos.
Et est-ce que pour toi, la protection de l'environnement, c'est un sujet qui te touche?
Ça me touche évidemment, mais je pense que ça touche tout le monde. Et c'est quelque chose qui est vraiment ancré à l'école comme... à la maison, et je pense que ça se transmet par l'éducation et il faut continuer cette pédagogie le plus longtemps possible.
Donc là, si tu veux bien, on va partir sur la réalisation de ton court-métrage. Comment ça s'est passé? Alors, est-ce que tu peux nous dire, je sais que tu as été prévenue assez tard.
Oui, c'est ça.
Et donc, en combien de temps tu as réussi à réaliser ton
court-métrage? Donc, 15 jours avant, je l'ai fait, j'y ai participé, et il fallait jongler entre les cours, etc. Donc, en une semaine, il fallait que je le fasse.
Et t'as réussi à gérer, ça va?
Enfin, ouais.
Comment tu t'y es pris?
Du coup, j'avais mon emploi du temps, je respectais mon emploi du temps et voilà.
Sur lettre. Les heures libres, tu pouvais aller filmer, etc.
Ah, c'est ça.
Et du coup, avec quoi t'as filmé?
J'ai filmé avec une caméra, j'ai mon petit matériel à moi et du coup, ça m'a permis. Donc j'ai un stabilisateur, un trépied, la caméra.
Voilà. On a vu qu'il y avait des images au drone aussi.
Voilà, c'est ça. Mais ça ne m'appartient pas, pardon.
Oui, mais t'as dû prendre du temps quand même à filmer tout ça, comme c'est tu nous as dit tout à l'heure. Et du coup, c'est toi qui as fait le montage?
Oui, c'est tout moi toute seule, la réalisation, le montage, le tournage, vraiment moi toute seule.
Comme une grande.
Et on a vu qu'il y avait des figurants, des acteurs dans ton film, c'est des gens, des proches de ta famille?
Oui, les deux actrices principales, ce sont ma grand-mère et ma petite sœur, et moi à la fin. Et sinon, ce sont des amis et des amis de mes amis.
Très bien. Et tu t'es inspirée d'un cinéaste ou d'un réalisateur en particulier pour réaliser ton court-métrage ?
Non, du tout. Tout m'est venu de moi-même. Et j'ai changé de scénario même une semaine à l'avance. Vraiment, ça a vraiment beaucoup bougé, mais pour arriver à un résultat final plutôt pas mal.
Et sinon, dans la vie, il y a vraiment un réalisateur qui te tient à cœur, un modèle pour toi dans le cinéma ?
Ah ben, modèle, ça serait évidemment les plus grands, mais j'ai des contacts via mes parents qui me permettent aussi de voir et d'être plus proche que ce que je serais avec des plus grands. Mais, voilà.
Tu découvres au fur et à mesure en faisant toi-même voilà, tes réalisations. Et est-ce que tu as une anecdote un peu croustillante à nous faire partager ?
Pas drôle, non, mais évidemment, pour tout ce qui est, il y a beaucoup de flamants roses, beaucoup de nature dans mon court-métrage pour mettre en avant l'environnement. Et je crois que ça a été ça le plus dur à filmer.
Capturer, ouais.
Ah, j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Il se retournait beaucoup de fois sur les.
Oh, les flamants roses hein.
Attention Ah oui, non, ça c'est oui. Faut être patient.
Est-ce que tu as gagné le prix du public, c'est ça ?
C'est ça.
Et en quoi ça consiste ?
En fait, il y a trois prix en tout. Il y avait le prix du jury, qui a été remporté par Julien Lewis. Le prix du public, du coup, des internautes, que j'ai remporté. Et le 18 mars, lors de la projection de mon film au cinéma de l'Odyssée à Foss-sur-Mer, il y aura la remise du prix du public.
Très bien. Et du coup, on peut retrouver ton film ?
Alors, on peut le retrouver sur le YouTube de la ville de Foss-sur-Mer. Il est disponible.
Très bien.
Ce concours t'a-t-il ouvert des portes ? Est-ce que tu as été repérée ?
Alors oui, j'ai eu de nombreuses offres. J'ai un producteur de musique qui m'a demandé de réaliser un clip pour deux Américains. Vraiment, ça m'a ouvert des portes, mais immenses, que j'aurais jamais imaginé.
Merci, la conseillère.
Nouvelle star, j'ai envie de dire.
Eh bien,
merci beaucoup en tout cas d'être venu, de nous avoir parlé de ton concours.
Merci à vous.
J'espère que ça t'a plu. Hein.
Et puis vive le cinéma.
Ouais, vive le cinéma. Au revoir.
Merci à toi Lucie pour nous avoir fait part de ton expérience. Voilà, cette première partie va toucher à sa fin, mais ne partez pas, cela ne fait que commencer. Marine, que vous connaissez, elle était animatrice à Utopia il y a 5 ans, va continuer l'émission.